Messieurs, les événements ont donné la République, et remonter à ses causes pour les discuter et pour les juger serait aujourd'hui une entreprise aussi dangereuse qu'inutile. La République existe, elle est le gouvernement légal du pays. Vouloir autre chose serait une nouvelle révolution, et la plus redoutable de toutes. La République sera conservatrice ou ne sera pas. Discours d'Adolphe Thiers devant l'Assemblée nationale le 13 novembre 1872.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
Parmi les grandes personnalités politiques du XIXe siècle français, il y a Adolphe Thiers. Pour certains, un très grand homme d'État, pour d'autres, un massacreur de la Commune qui a beaucoup de sang sur les mains. Je vous propose donc aujourd'hui de faire un peu le parcours politique de cet homme qui effectivement a connu les régimes de la Restauration, de la Monarchie de Juillet, de la Seconde République, du Second Empire, et qui a participé à l'élaboration de la Troisième République. Il a servi Louis-Philippe, il a été député à l'époque de la Seconde République et sous Napoléon III, pour finalement terminer chef de l'État en 1871. Quel bilan donc tirer de ce grand et long parcours politique ? Adolphe Thiers est né en 1797, il est d'origine marseillaise, c'est un avocat qui est monté à Paris, comme l'on dit, et au cours de la Restauration, il s'est de plus en plus méfié de la politique menée par les gouvernements de Charles X. Ce qui fait qu'à partir de 1829, il est clairement dans l'opposition libérale au gouvernement du prince de Polignac et à la ligne conservatrice adoptée par le roi Charles X. Au moment de la Révolution de 1830, Adolphe Thiers participe, en particulier grâce à son journal Le National, à la popularité et à la mise en place de Louis-Philippe, duc d'Orléans, qui est devenu roi des Français. En fait, le remplacement de Charles X par Louis-Philippe à la suite de la Révolution participe à ce qu'avait proposé Thiers lorsqu'il avait indiqué qu'il fallait garder le régime, l'ossature du régime de la monarchie parlementaire, mais changer de roi. À l'époque de Louis-Philippe, il a d'ailleurs joué un rôle important. En 1834, il est le ministre de l'Intérieur qui rétablit l'ordre lors des émeutes qui secouent Paris. Et déjà, il apparaît comme quelqu'un qui visiblement a de la poigne pour ce maintien de l'ordre. On le retrouve président du Conseil en 1836 et en 1840. Ensuite, il est vrai qu'il va connaître une éclipse politique. Pourquoi ? Parce que, durant les années 1840, la grande personnalité du régime de la monarchie de Juillet, c'est François Guizot. Et Adolphe Thiers va donc être un opposant à celui qui va dominer le pouvoir jusqu'à la Révolution de 1848. D'autre part, il est souvent en désaccord, et d'ailleurs ce fut la cause de son départ en 1840, avec les prises de position de politique internationale du roi Louis-Philippe, qui est plutôt un homme finalement pacifique, qui ne veut pas déranger la paix issue du congrès de Vienne, alors que par exemple, au moment de la crise égyptienne de 1840, Thiers aurait voulu que l'on tienne tête à la politique britannique. En 1848, au moment de la Révolution, le roi va faire appel à Thiers une dernière fois, mais Thiers lui conseillera, ce que ne fera pas finalement Louis-Philippe, d'évacuer la capitale pour ensuite la reprendre quartier par quartier. Sous la Seconde République, Thiers est un homme important. Il est une des têtes pensantes de ce qu'on appelle le parti de l'ordre. Mais il va connaître un succès important aux élections de 1849, puisque le Parti de l'Ordre obtient 53% des suffrages. Mais par contre, il va faire une erreur d'appréciation vis-à-vis du prince Louis-Napoléon Bonaparte. Il a cru que le prince Louis-Napoléon serait finalement quelqu'un de maniable. « C'est un crétin que l'on mènera », avait-il dit. Or, en fait de crétin, le prince Louis-Napoléon est élu président de la République en décembre 1848. organise le coup d'État de 1851 et devient empereur des Français l'année suivante. En fait, le jouet avait échappé, si j'ose dire, à son inventeur, et indéniablement, Thiers, il n'a pas été le seul d'ailleurs, avait sous-estimé la capacité politique du prince Louis-Napoléon. Ce qui fait qu'on le retrouve dans l'opposition durant les débuts du Second Empire, et il va retrouver un siège de député en 1863. À partir de ce moment-là, il apparaît comme un homme défendant les principes libéraux et le principe d'un régime libéral. Il fait en particulier un grand discours en 1863 sur les grandes libertés nécessaires, où il indique que finalement, peu importe le type de régime, si le Second Empire est en capacité de se libéraliser, ce qu'il est vrai, il a commencé à faire, eh bien, acceptons le Second Empire. Plus que l'enveloppe, c'est le contenu de l'enveloppe qui apparaît importante à Thiers, c'est-à-dire un régime libéral, parlementaire, y compris avec un empereur à la tête de l'État. Mais en 1870, le Second Empire s'effondre à la suite de la guerre franco-prussienne. Et cet homme, âgé de 73 ans, qui a déjà une très longue expérience politique, va apparaître pour beaucoup comme l'homme de la situation. Le 8 février 1871, les Français sont appelés aux urnes et ils vont élire une assemblée destinée finalement à donner de nouvelles institutions à la suite de la proclamation de la République après le désastre de Sedan le 2 septembre 1870. Cette majorité qui est élue en février 1871 est composée essentiellement de monarchistes. Il y a à peu près 400 élus monarchistes contre environ 150 républicains. Le problème des monarchistes, c'est qu'ils sont divisés entre légitimistes, partisans des Bourbons, et les orléanistes, favorables finalement à une monarchie à l'anglaise. Et chacun voit en Thiers l'homme qui sera susceptible de trouver un compromis acceptable. D'autre part, il va falloir aussi avoir un homme à poigne, parce que à Paris, à partir du mois de mars, débute la Commune, et c'est un enjeu majeur pour Thiers, qui est devenu donc chef de l'État.
Quand nous en serons au temps des cerises, le doux rossignol, le merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous en serons au temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur.
Évidemment, je ne peux pas entrer dans le détail de la Commune de Paris de 1871, mais il est vrai que le contexte compte beaucoup. L'humiliation du siège, la défaite, le fait finalement que l'Assemblée ne représente pas tellement Paris, parce que Paris a voté plutôt pour la gauche ou l'extrême-gauche républicaine la plupart du temps, et cette assemblée, dominée par des notables monarchistes, totalement légalement élus, évidemment, choque une partie des Parisiens. Par rapport à la Commune, Thiers porte une responsabilité, puisqu'il a voulu reprendre les canons qui se trouvaient à Montmartre, qui a été l'allumette qui a mis le feu aux poudres. Face à cette Commune, Thiers ne va pas trembler. Il va en fait reprendre la proposition qu'il avait faite à Louis-Philippe en février 1848. Évacuer Paris et reconquérir la capitale, militairement, quartier par quartier. « Nous mettrons tout le temps qu'il faudra, dit-il, un mois, deux mois, trois mois si c'est nécessaire. Avant de rien commencer, il faut que l'outil soit solide. » Effectivement, une armée de 130 000 hommes va reprendre la capitale, qui compte sur à peu près 30 000 combattants effectifs, et la répression de la Commune fera sans doute aux alentours des 20 000 morts, plus plusieurs dizaines de milliers de prisonniers, dont 10 000 sont condamnés à la déportation en Nouvelle-Calédonie. Les résultats, évidemment, de l'écrasement de la Commune sont importants parce que, finalement, le gouvernement républicain représenté par Thiers a fait preuve de fermeté. La République, ce n'est pas le désordre. La République, c'est maintenir l'ordre, y compris en faisant verser beaucoup de sang. En plus, il est évident que des orléanistes et des républicains modérés ont pu se retrouver finalement dans une majorité qui était susceptible de soutenir Thiers. Alors, on ne peut pas résumer évidemment tout le gouvernement de Thiers à cette simple répression. Il a eu aussi la charge de traiter avec l'Allemagne le traité de Francfort qui va accorder à l'Empire allemand l'Alsace et la Lorraine. Il va devoir aussi remettre sur pied les finances de la France en gérant les frais des troupes d'occupation. Mais par contre, là où il va connaître une rupture, c'est avec sa majorité monarchiste. Parce que dans son discours du 13 novembre 1872, que j'ai évoqué au tout début de notre chronique, il annonce clairement que pour lui, le débat sur les institutions est clos. La République est là, il faut faire avec, il faut l'adapter aux normes d'une République parlementaire. Évidemment, cela va lui coûter son poste de chef de gouvernement et de chef de l'État, puisque les deux fonctions sont à ce moment-là réunies, et il est amené à démissionner le 24 mai 1873. Il va mourir en 1877, à 80 ans, et apparaître, pour nombre de républicains, comme un des pères de cette nouvelle République, mais évidemment, pour les partisans de la Commune, il restera celui qui les a écrasés dans le sang.